A long way from home.
En sol majeur.
En sol majeur.
Yasmine Chouaki.
Il y a dans notre douce France de belles surprises. Une surprise qu'étrangement j'ai appris par voie de presse algérienne. Donc merci au quotidien d'Oran qui me révèle qu'en son sein, la République détient la première sénatrice musulmane de France. Ex-vice-présidente du Sénat, juge à la Haute Cour de Justice de la République, Bariza Kiari, 71 ans, fait donc partie de ces enfants d'immigrés au parcours exceptionnel. Alors que l'islam en déboussole plus d'un dans le cher pays de son enfance, la France, Madame Kiari assume tout, du sol au plafond, et je parle du plafond de verre. Ses origines, son amour de l'islam et sa foi en la laïcité, pourvu qu'elle ne soit pas tyrannique. Présidente de l'Institut des cultures d'islam, tiens, qu'est-ce qu'on y fait là-bas? C'est à Paris en tout cas. Représentante personnelle du président Macron et de la France dans un fonds intitulé Alif. Cette perle républicaine valait bien une petite visite en sol majeur. Bonjour, Esbah al-Khair, Bariza Khiari.
Bonjour, Esbah al-Khair.
Les médias, on le sait, se font régulièrement l'écho de discrimination qui touche certaines populations en France. Mais ils parlent rarement de Bariza Khiari. Est-ce que c'est vous qui fuyez les médias ou est-ce que ce sont les médias qui sont toujours porteurs de mauvaises nouvelles?
Je cultive la discrétion, d'abord, parce que c'est plus simple. C'est plus simple et puis c'est ma nature. Et puis comme ça, j'ai pu avancer tranquillement. On m'a attaqué évidemment, moi j'ai eu la fachosphère sur le dos pendant des années. Hein. Mais bon, je m'en suis sortie quand même.
Donc racontez votre parcours de façon en sol majeur, je sens que ça ne va pas être inutile. Et puis ça va être très joli aussi, puisque tout commence pour vous du côté des Aurès,
oui,
en Algérie.
Paix comme pays premier, pays d'enfance.
Donc vous êtes né, Bariza, quelque part dans ce champ de Ouria Aïchi?
Oui, c'est-à-dire je suis né près de Nbeda, dans un petit douar où il y avait trois maisons en terre. Et mon père m'a appelé Bariza.
Ce qui veut dire
Berza, qui va exceller, qui va s'élever. On dit ça quand on parle d'une personnalité éminente. Chersia Berza, une personnalité qui ressort. Et donc voilà, c'est réussi. Je n'ai fait qu'y naître et j'y suis restée que 3 mois.
Donc vos parents sont des Chaouis, c'est-à-dire des Berbères?
Oui, des Berbères arabisés.
D'accord.
Parce que dans les Aurès, l'arabe est introduit depuis très longtemps et il n'y a plus qu'une arrière-grand-mère qui parle encore un petit peu le Chaoui.
Et vous êtes issu d'une grande famille de théologiens, apparemment. Racontez-nous.
Oui, mais enfin, dans la famille, il y a des théologiens qui ont fait leurs études à la Zitouna, par exemple. Hein. Mon père, par exemple, a fait ses études à la Zitouna. La Zitouna, c'est l'école théologique de Tunis. C'est proche de la Tunisie, les Aurès. Et puis, mon père a baigné dans ce milieu et puis il a rompu avec ce milieu à un moment. Pourquoi? Parce que vous êtes toujours en prière et à côté, il y a un peuple qui crève. Donc il y a une génération, la génération de mon père, où on a rompu avec ça. Mais ils nous ont quand même transmis les valeurs de l'islam quand même, même si en termes de citoyenneté, ils étaient plutôt dans la lutte. Mon père et ma mère ont fait de la prison pour leurs idées.
Quelles idées?
Les idées de la volonté d'indépendance d'un territoire.
Parce que votre père, qui s'est retrouvé engagé dans des mouvements de décolonisation, vous allez peut-être nous en dire plus, c'était un proche, sans doute, de Messali Hadj, l'un des pères de l'idée d'indépendance, le fondateur du MTLD, le Mouvement pour le Triomphe des Libertés Démocratiques. Je vous propose de nous remettre sa voix en oreille.
Il est évident que j'ai parlé du nationalisme algérien. Et aussi, j'ai parlé avec un langage très énergique. Et puisqu'on m'a qualifié à l'époque d'agitateur, d'extrémiste, quelquefois, d'ailleurs, à tort, de panislamisme, de panarabisme. Eh bien, non. Il fallait que j'emploie des moyens pour réveiller notre peuple. Et une fois réveillé, une fois la matière prête, on essaye de lui donner la forme que l'on veut.
Bon, en sol majeur sur RFI, un petit peu de Messali Hadj. Alors, il faut le dire, c'est une voix totalement évincée, en tout cas oubliée du nationalisme algérien.
En tout cas, mon père a été d'abord au PPA, puis au MTLD, puis bien évidemment après, il a choisi, quand il y a eu des scissions, il a choisi le FLN. Et c'est au titre du FLN qu'il a été emprisonné.
Il a été emprisonné par qui ?
Il a été emprisonné par les Français. Il était en France parce qu'il était au FLN et que ma mère était également au FLN et qu'ils avaient des agissements qui étaient à ce moment-là contraires à la loi.
Sur quels agissements ils ont été emprisonnés ?
Pour la diffusion de... Voilà, pas des choses extrêmement graves, mais quand même, ils ont fait quand même pas mal de prison. Et mon père, d'ailleurs, a été exilé en Algérie. Il a été arrêté, condamné, puis exilé en Algérie pour faire sa peine à la prison Barberousse. Et quand mon père est rentré, les gendarmes sont venus chercher ma mère. Alors vous comprendrez bien que ma conscience politique est née dans le militantisme de mes parents pour la décolonisation. Et son militantisme, ce sont les Algériens de France. Il y a eu tout un mouvement des Algériens de France pour la lutte pour l'indépendance, qui a été accompagné par les communistes, par un certain porteur de valises. C'est toute l'histoire de l'Algérie qui a été vécue aussi en France par les Algériens de France.
Et l'indépendance de l'Algérie n'a pas fait tourner la tête de votre père, il n'a pas eu envie de retourner au pays.
Il a fait son devoir, c'était politique, et je me souviens, il nous a réunis à l'époque, les enfants, pour dire, moi, j'ai trouvé mes combats, les combats de mon époque, trouvez les vôtres. C'était une liberté complète. La France est votre pays d'accueil, pour certains vous y êtes nés, et donc moi j'ai trouvé mes combats, trouvez les vôtres.
F comme fille de.
Alors, est-ce qu'on peut dire, Barry Zakhari, tout en ayant grandi dans l'Hexagone au sein d'une famille algérienne, est-ce qu'on peut dire que vous êtes d'abord une fille de la République ?
Je suis d'abord une fille de la République, oui. Absolument, parce que je dois beaucoup à la République. D'abord l'école, des maîtres exceptionnels. Des gens qui savaient à l'époque repérer les talents et puis nous encourageaient beaucoup. Et puis à une famille aussi, à ma famille, qui a installé en nous des valeurs, la vertu, le travail comme vertu. Donc beaucoup à la famille et beaucoup à l'école. J'ai considéré que plus tard, j'avais des choses à lui rendre à cette école. Et quand mes enfants, par exemple, ont grandi, je me suis vraiment beaucoup investie dans l'école de la République. J'ai considéré qu'il ne fallait pas déposer un gamin à l'école et le retirer au bac avec un petit ruban, mais qu'il fallait faire partie de la cité scolaire. J'ai beaucoup milité à la FCPE Janson-Sailly, où mes trois fils ont fait leurs études.
Vous êtes donc titulaire d'un DESS et d'un Master of Business Administration, de gestion des entreprises, de l'Université Paris-Panthéon-Sorbonne. Mais alors, je ne sais pas si la date est exacte, c'était en 1981.
Oui, j'ai repris des études.
C'est ça, parce que vous aviez déjà 36 ans. Donc vous avez privilégié votre vie familiale pour reprendre vos études. Ce qui veut dire que pour la fille d'immigrés, c'est comme ça que je suis obligée de vous présenter quand même, ça a été un parcours universitaire sans faute et sans fausse note.
Absolument.
Dans cette France.
Absolument. En fait, un parcours normal.
Car vous aviez un certain talent décelé par les enseignants de la République, de l'école républicaine.
Alors, il faut dire qu'il y a deux choses. Il y a bien sûr les enseignants, mais il y a aussi le fait d'être une fille. Et une fille dans une maison dominante arabo-musulmane, on la surveille un peu plus et elle sort pas beaucoup, quoi. On travaillait beaucoup.
Donc ce qui pourrait paraître discriminant devient une force.
Voilà, devient une force après. Mais j'ai fait la même chose avec mes enfants, ils sont des garçons.
Vous avez reproduit ça. Ah,
oui, ils sont des garçons, c'est trois garçons, mais je fais la même chose. Vous ne sortez pas, si vous voulez présenter les concours, il faut travailler.
Donc voilà. Vous êtes pour la parité. Filles-garçons,
oui, bien sûr,
on ne sort pas,
oui,
on travaille.
On travaille, voilà.
Alors vous le disiez, vos parents ont eu une grande cause à défendre. Pour vous, quelle a été la cause qui vous a fait entrer en politique un jour ?
Alors j'ai commencé par l'antiracisme. Évidemment, parce qu'à un moment donné, je me suis rendu compte quand même qu'il y avait quelques problèmes.
Personnel, collectif?
Non, collectif, absolument collectif. Et donc, j'ai milité au MRAP.
Voilà. Le mouvement contre le racisme.
Le mouvement contre le racisme et l'antisémitisme, et pour l'amitié entre les peuples. Et j'y ai trouvé un combat. Puis après, dans le syndicalisme, où j'ai été à la CFDT, même en tant que fonctionnaire, j'ai été membre de la CFDT. Et puis après, tout naturellement, à la FCPE, Janson de Sailly, où mes enfants étaient en classe. Donc ce sont des engagements associatifs. Et puis à un moment donné, s'est présenté à moi la possibilité d'entrer en politique. J'ai considéré que tous ces engagements devaient aboutir à faire quelque chose. Donc j'ai commencé, comme je pense chaque parlementaire français a commencé, c'est-à-dire en militant dans son quartier. Donc j'ai adhéré au PS pour les valeurs du PS de l'époque. Et puis j'ai été secrétaire de section du 16e arrondissement de Paris, puis secrétaire fédérale, puis secrétaire nationale en charge des services publics.
Tout ça sans problème en vous appelant Bariza Chiari?
Avec un nom comme le tien, tu vas plomber la liste, on m'a quand même dit. Oui, voilà, enfin, c'est des propos comme ça.
Alors, je m'étonnais tout à l'heure, d'ailleurs, avec la presse algérienne qui, elle, s'enorgueillit de votre parcours, c'est bien normal que vous soyez devenue la première sénatrice musulmane de France. On s'en est fait peu l'écho, je dirais, dans nos médias ici, c'est étrange. Mmh. Et vous avez été élue autant par la droite que par la gauche.
Oui, absolument, absolument. Moi, je voudrais rectifier quelque chose. Mmh. Je ne suis pas sénatrice musulmane. Je suis sénatrice de confession musulmane. Mmh. C'est pas la même chose.
Mmh. Oui, j'ai repris les termes de la presse algérienne, du quotidien d'Oran, effectivement. Mais vous dites bien quand même qu'en France, c'est beaucoup plus difficile quand on est fils ou petit-fils d'immigrés de décrocher un poste à diplôme égal.
C'est vrai. Les discriminations sont là. Il faut le reconnaître, même s'il y a une intégration qui est réussie pour certains, et de plus en plus même maintenant. Il y a des cas d'or, il y a de très belles réussites, mais il n'en demeure pas moins que c'est tout pour eux toujours beaucoup plus difficile. Il faut beaucoup plus travailler, il faut beaucoup plus s'engager, c'est toujours plus difficile. Et puis il y a, à un moment donné, il y a un plafond de verre. Voilà.
En tout cas pour vous, au moment où vous êtes dans cette grande famille du PS, à travers le Premier ministre Manuel Valls, il va y avoir un discours qui ne va pas passer, c'est son discours d'après les attentats du 13 novembre.
La déchéance de nationalité en cas d'acte terroriste existe et s'applique déjà, mais elle ne concerne parmi les Français binationaux que ceux nés étrangers. Il y a de fait une atteinte au principe d'égalité. Dans l'absolu, certains peuvent penser qu'il faudrait pouvoir déchoir tout auteur d'un crime terroriste de la nationalité française. Mais les principes internationaux que la France a reconnus interdisent de rendre une personne apatride. Nous devons bien sûr respecter ces engagements. C'est pourquoi, comme l'a annoncé le président de la République devant le Congrès, le gouvernement a décidé de soumettre au Parlement l'extension de la déchéance de nationalité à tous les binationaux.
Ironie de l'histoire sur RFI, cette loi portée par Manuel Valls aura eu moins d'effet finalement sur les candidats au terrorisme que sur les binationaux eux-mêmes dont vous faites partie, Bariza Chiari.
Absolument. J'ai considéré que ce projet, ce néfaste projet, cette proposition, si la droite avait osé proposer ça, on serait tous dans la rue. Et ça contrevenait aux valeurs de la gauche, valeurs pour lesquelles j'étais entrée au PS.
Vous l'avez dit haut et fort?
Ah ben je l'ai dit haut et fort, oui, absolument.
Réaction?
Réaction. Donc j'ai combattu dans l'hémicycle, j'ai réussi à faire en sorte que des collègues se joignent à moi pour les amendements de suppression de cet article. Et l'exécutif, voyant qu'il n'avait plus de majorité dans son groupe, a préféré retirer cette loi.
Mais la rupture,
mais le mal est fait.
La rupture était consommée.
La rupture était consommée.
Avec le PS,
il y a eu le discours sur les migrants. Puis après, il y a eu une forme de laïcité hystérique qui m'a fatiguée. Et voilà, donc ça a été une rupture qui a été consommée.
Une question sur la laïcité que vous qualifiez de tyrannique. On est en pleine polémique de nouveau ces jours-ci. Vous avez entendu la présidente de l'UNEF à Paris-Sorbonne qui est apparue voilée à la télévision. Et on a entendu dernièrement notre ministre de l'Intérieur Gérard Collomb opposer le port du voile à la société française. Quelle est votre position à vous sur le voile?
Mais écoutez, moi, longtemps, j'ai été contre le port du voile, parce que je suis une femme et que je suis pour l'émancipation des femmes, en pensant, probablement à tort, que les femmes étaient forcées de le porter. En fréquentant quelques-unes, je me suis rendu compte que ce n'était pas le cas, qu'elles le faisaient de manière volontaire.
C'est plus nuancé, disons.
Voilà,
oui, oui.
Beaucoup plus nuancé. Donc vraiment, je n'ai pas d'avis tranché sur la question. Je pense qu'il y a... Les gens sont libres, tant que ce n'est pas interdit par la loi, elles ne disconviennent pas à des principes législatifs. Donc chacun fait ce qu'il veut.
Donc c'est au cas par cas, mais sur le cas de cette présidence de l'UNEF, donc, qui représente un syndicat étudiant qui se dit progressiste et féministe, est-ce que vous êtes choquée par le fait qu'elle porte le voile ?
Alors, je ne fais aucune observation sur la personne qui porte le voile. En revanche, je m'interroge...
C'est pas la personne, mais c'est ce qu'elle symbolise.
Oui, non mais... D'accord. Mais je m'interroge sur l'UNEF.
Le syndicat
lui-même. Le syndicat lui-même, en tant que syndicat qui a toujours été progressiste et qui a été la pouponnière du PS.
Qu'est-ce que vous...
J'ai pas d'idée.
Qu'est-ce que vous interprétez derrière ce geste derrière
une forme de dérive. Une forme de dérive. Voilà, on doit travailler à l'émancipation des femmes.
Alors, malgré ce beau parcours politique que vous nous décrivez, discret mais beau tout de même, est-ce qu'honnêtement, Barry Zakari, vous avez eu la sensation d'incarner malgré tout, toujours et encore, cette carte de la diversité dans le monde de la politique française ?
Alors, il faut dire que j'étais quand même assez seule. Hein. Il y avait une autre sénatrice qui était avec moi, Halima Boumediene Thierry. Hein. Mais enfin, on est seul. Hein. Franchement, quand vous êtes deux dans un hémicycle de 350, franchement. Alors moi, je considère que je suis...
En même temps, il y a des Rachida Dati, il y a des Ramayad, il y a des Fadela Amara.
Il faut être élu. Ça change tout. Mmh. Elles sont nommées. Il y a la légitimité des urnes. La légitimité du parcours militant et la légitimité des urnes. Ça ne s'achète pas. Et moi, je considère que je suis une erreur statistique.
Voilà. Pas une exception à la règle, mais une erreur statistique.
Oui.
Alors, trêve de polémique, on va mettre un petit peu de musique dans cette conversation en sol majeur, Marisa, parce que ce qui est bien, c'est que RFI peut tout, même se transformer en vieille radio arabe grésillante. C'est ce qui va se passer en écoutant le loukoum de la musique classique arabe, ce cher Farid El Atrache. Vous avez été biberonné à cette musique-là ?
Oui, c'est la musique des parents.
Pas celle des enfants ?
Non, pas celle. Enfin, c'est celle des enfants parce qu'on est dans cette ambiance. Donc voilà.
Pourquoi vous avez choisi ce morceau que je ne saurais...
Parce que je l'ai souvent entendu.
C'est quoi ce morceau ?
Alors,
Zahratan.
Ya Zahratan fi khayali.
Pourquoi ce morceau ?
Parce que c'est celui que j'ai le plus entendu à la maison, et puis que j'ai porté encore, qui résonne encore en moi.
ووهبت العمر أوتاري ولحمي وتغنيت فداويت جروحي أنا طير في ربى الفن يغني للطيور للزهور في الأصول جنت عليها الليالي وأذبلتها الأيادي وشغلتها العيون فمات سحر الجفون هي غرامي كل شيء ضاع مني فنزعت الحب من قلبي وروحي هي غرامي كل شيء ضاع مني فنزعت الحب من قلبي وروحي ووهبت العمر أوتاري ولحمي وتغنيت فداويت جروحي أنا طير في ربى الفن يغني للطيور للزهور في الأصول يا زهرة في خيالي رأيتها في فؤادي هي زهرة في خيالي رعيتها في فؤادي جنت عليها الليالي وأقبلتها الأيادي وشغلتها العيون فمات سحر الجفون.
Avec Farid et la Trache sur RFI, ça sent tout de suite la chorba du Ramadan, Haftorkoum d'ailleurs, pour tous les musulmans du Maghreb et du monde entier. Et puis ça me rappelle aussi ce dessin de Dilem, vous savez, notre caricaturiste bien-aimé, autour des aménagements d'horaires pendant le Ramadan. Alors je vous décris le dessin, on voit un fonctionnaire à son bureau, je pense que la scène se passe en Algérie, et ce fonctionnaire dit « c'est bon, j'ai mis le réveil à 16h ». Ça me permet une question.
On peut pas faire ça ici.
Ah non, mais en Algérie, en revanche. Alors, ça me permet cette question, Bareza Kiari. Ce fameux aménagement des horaires et des salles de prière dans les entreprises françaises, est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose ?
Non, parce que c'est chambouler l'entreprise, c'est des coûts supplémentaires pour l'entreprise. Et je pense que l'intégration implique que la foi, ça soit chez soi. Et qu'on n'a pas à imposer aux autres notre vision de la religion. Je suis une des rares qui a annoncé la couleur. Je suis farouchement républicaine et sereinement musulmane, mais pas pour autant un islam revendicatif ou visible. C'est cette visibilité de toute façon qui gêne nos concitoyens.
Je vais vous emmener à Fès, Bareza, là où les minarets ont pignon sur rue.
لما تسمعون صوت الأذان بماذا تشعرون؟
Quand vous entendez les chants du muezzin, que ressentez-vous?
Beaucoup d'émotions. La chair de poule parfois. Quand je vais à Fès, je vais beaucoup à Fès pour le Festival des musiques sacrées. Et je suis à l'origine, enfin, cofondatrice du Festival des musiques soufis de Fès.
D'accord.
Et donc, je vais souvent là-bas. Et en général, je j'habite un hôtel qui est situé sur un monticule. Et donc, à l'aube, les mosquées invitent à la ville au réveil.
Vous dites les mosquées, c'est 120 mosquées ?
120 mosquées à Fès. Qui se répondent les unes les autres, et ça fait un écho incroyable, avant l'appel. Fès est une ville spirituelle par nature, et ça vous emporte.
Alors cela dit, vous n'avez pas craint, vous qui êtes une femme politique française, et dans ce contexte de tension en France autour de la question religieuse, vous n'avez pas craint d'assumer votre appartenance à la communauté musulmane, vous qui êtes discrète.
Oui, mais l'islam est devenu une chose politique. À partir du moment, très longtemps, j'ai jamais imaginé qu'un jour je dirais cette phrase « Je suis farouchement républicaine et sereinement musulmane ». Jamais imaginé. Et moi, mes amis me disent « Mais des gens comme toi, on les entend jamais ». Et l'islam est devenu un sujet politique. En tant que femme politique, il fallait que je m'implique. Et donc, je me suis impliquée en le disant déjà. Parce que moi, j'ai pas un islam, le couteau entre les dents. Il faut montrer aussi ces visages-là.
C'est une manière de vous mettre en travers, on va dire, d'un islam radical.
Ah oui.
Le fait d'assumer cette foi telle que vous l'assumez.
Absolument. Parce qu'il n'y a qu'eux qu'on entend. Ils sont trop audibles et trop visibles. Et les porteurs d'un islam spirituel, comme le mien, sont discrets par nature. Donc il faut qu'ils commencent à dire les choses.
Alors vous voilà, par ailleurs, présidente de l'Institut des cultures d'islam. Qui se situe, j'y suis jamais allée, je vais être honnête avec vous.
Je vais vous inviter.
J'accepte volontiers. Cet institut se trouve dans le quartier de la Goutte d'Or, à Paris, dans le 11e donc.
Dans le 18e.
Dans le 18e, pardon. De l'extérieur, comme ça, si on ne rentre pas tout de suite, on peut imaginer que c'est un lieu assez sévère. C'est quoi la vocation de cet institut ?
Alors, c'est Bertrand Delanoë qui, quand il était maire de Paris, a souhaité donner la possibilité aux musulmans d'avoir un institut des cultures d'islam. Et c'était une période où il y avait des prières de rue dans le 18e. Et il a fait le pari de pouvoir s'entendre avec la mosquée de Paris pour qu'il y ait un espace dans cet immeuble qui était en construction, un espace cultuel. Et donc, nous faisons beaucoup de choses. Il y a des expositions.
On va revenir à l'agenda de cet institut, mais du coup, il y a eu une polémique avec Anne Hidalgo, qui a succédé à Bertrand Delanoë, qui ne souhaite pas qu'il y ait de cohabitation, justement, entre un centre culturel et une salle de prière.
Non, c'est faux. C'est complètement faux. Et il y a eu une polémique voulant faire dire ça à Anne Hidalgo. La question, c'est que nous devions construire un deuxième bâtiment.
Et qui soit dédié à la prière, au culte.
Voilà. Et comme il n'y avait pas de financeur pour la partie culturelle, Anne Hidalgo a renoncé à ce projet-là. Mais le projet actuel, Anne Hidalgo en est l'héritière et elle assume complètement le projet de l'Institut des cultures d'islam où il y a une salle de prière et où il y a énormément d'activités culturelles.
Et ça ne vous gêne pas, vous, de mélanger culturel et cultuel? Vous trouvez que ça va ensemble?
Non, mais ça ne me dérange pas. Ça n'est pas mélangé. C'est séparé.
La culture, ça n'a pas une vocation à être laïque, à être au-dessus du culte.
Là, je veux expliquer les choses. D'accord. Ne m'interrompez pas, je veux expliquer les choses. Il y a un espace consacré à la prière. Cet espace a été acheté par la mosquée de Paris et est géré entièrement par la mosquée de Paris. Nous n'avons rien à voir, nous, Institut des cultures d'islam, avec la salle de prière. L'Institut des cultures d'islam ne s'occupe que de culture.
C'est un mélange de genres assez étrange, parce qu'en même temps, il est dans l'Institut lui-même.
Ça a été voulu, l'architecture a été voulue comme ça.
Alors, exposition, concert, cinéma, avec par exemple à l'honneur le 26 mai, Les Mille et Une Nuits, compté par une certaine Leila Darwish. Le film Dîner Salem, qu'on aime beaucoup ici, My Sweet Pepper Land, c'est un film kurde plein d'humour. Sur la guerre d'indépendance, ça c'est le 29 mai. Et puis bien sûr des conférences, enfin je dis bien sûr, non oui. justement, c'est tout oui. le sel de l'affaire, sur les grands philosophes de la pensée arabe, ça c'est jusqu'au 29 juillet, dans l'exposition Bagdad, mon amour. Bref, tout ce qui touche à l'islam d'hier et d'aujourd'hui, c'est le cahier des charges de cet institut.
Absolument, absolument. Nous tenons beaucoup à montrer dans chaque programmation à ce qu'il y ait des conférences sur les grandes figures d'islam. Par exemple, cette fois-ci, il y a Al-Farabi, Mutanabbi, Al-Mamoun. Pourquoi ? Parce qu'on s'est rendu compte que le gros problème actuellement, c'est que les familles ne faisaient pas la transmission. La transmission des valeurs d'islam, des cultures d'islam n'est pas faite. Et qu'il y a des trous dans la raquette de l'éducation des jeunes. Ça, c'est un côté. Et d'un autre côté, il y a nos concitoyens qui ne connaissent pas les cultures d'islam et qui sont avides de culture et qui ont envie de connaître. Et donc, moi, j'aime beaucoup cette phrase du grand philosophe et poète soufi, Ibn Arabi, qui dit « Les hommes sont les ennemis de ce qu'ils ignorent ». Et donc, nous sommes des ponts. Et on réussit relativement assez bien. Il y a un public qui nous soutient de plus en plus. Et vraiment, nous sommes très contents de la dernière exposition qui est sur Bagdad.
Bagdad, mon amour. Alors, j'ai vu justement qu'en tant que sénatrice PS, vous êtes intervenue sur le génocide et autres crimes contre les minorités religieuses, ethniques et les populations civiles en Irak et en Syrie. Donc, il y a une logique à toute votre démarche. Et du coup, en ce qui concerne le patrimoine culturel de l'humanité, vous êtes aussi au rendez-vous. Barry Zakhari, parce que même si vous avez interrompu vos activités politiques, vous êtes aujourd'hui la représentante personnelle du président Macron auprès d'un fonds en charge de la réhabilitation dans les zones de conflit. Ce fonds s'appelle Alif, un drôle de nom.
C'est la première lettre de l'alphabet arabe.
D'accord. Alif, Bata, etc.
Voilà. Je trouve que c'est bien qu'ils aient trouvé ça parce que c'est l'anagramme en anglais. Alif. D'accord. C'est Alliance internationale pour la réhabilitation du patrimoine dans les zones de conflit. Donc en anglais, ça donne Alif. Et c'est un fonds qui a été doté par les États. Moi, j'ai été très, très sensible à toutes ces destructions du patrimoine de l'humanité. Et à l'époque, quand j'étais sénatrice, j'ai donc fait un article avec une collègue de la commission culture en disant la France, pays de la culture par excellence, doit absolument s'investir dans ce sujet en une résolution à l'ONU pour les trafics d'objets d'art. Et deuxième chose, essayons de faire en sorte qu'il y ait un réseau de musées qui soient des musées-refuges pour recevoir les œuvres et éventuellement les rendre en période, pardon, en période de paix. D'ailleurs, je dois signaler que la ville de Paris a été une des premières villes à nous accorder des mètres carrés sécurisés en cas de besoin. Et troisième chose, un fonds pour la réhabilitation. C'était le président Hollande à l'époque et il a fait. Et donc,
le président Macron est sensible lui aussi.
Ah oui, très sensible. Et donc voilà, je suis chargée maintenant de la gouvernance de ce fonds.
C'est quoi votre prochain chantier ?
Alors, prochain chantier, c'est un projet de réhabilitation du musée de Mossoul, un projet anté-islamique, avant l'islam, un projet islamique au Mali, les mausolées des saints soufis au Mali qui ont été vraiment beaucoup abîmés. Et puis j'ai demandé au Louvre de nous repérer, parce que vous savez que je m'intéresse aux minorités d'Orient, j'ai demandé qu'on trouve un patrimoine qui touche les minorités d'Orient. Et on a trouvé un monastère où chrétiens, yézidis et musulmans vont prier ensemble. Ça a été détruit parce qu'ils priaient ensemble. Nous allons le réhabiliter pour qu'ils puissent encore prier ensemble.
Alors vous vous souvenez certainement, Barry Zachary, de cette fameuse phrase « Et Dieu défait ce que ma main a fait ». Ah, vous cherchez. Mmh. Phrase attribuée donc à l'un de vos héros, l'émir Abdelkader, qui a tenu tête à l'invasion française de l'Algérie au cours du 19e siècle, et puis qui le 28 décembre 1847 a capitulé, il s'est rendu au général de la Mauricière.
ولادنا واللي بقى لنا من المجاهدين ما بقى لنا غير الاستسلام انتم شاهدين قدام الله باللي عملت في قضيتنا كل ما كان جهدي روح قال لولد الملك راني قابل نستسلم بشرط ياخذني انا وناسي الارض المسلمه Accepte ce cheval de la soumission. C'est le dernier que j'ai monté. Désormais, j'irai à pied. Toi qui m'as vaincu, tu es le seul à qui je peux confier ces armes avec lesquelles je t'ai combattu loyalement pendant 15 ans. Je n'en aurai plus besoin. Je vais consacrer le reste de ma vie à Dieu.
Dieu est grand. Les ennemis d'hier peuvent être les amis de demain, s'ils savent garder le cœur pur.
Tu me vois peut-être vivant. Et pourtant, je suis mort.
Paix comme petite mythologie personnelle.
Oui, pour un seul major, un film sur l'émir Abdelkader qui pourrait peut-être d'ailleurs faire partie de votre programme un jour à l'Institut des cultures d'islam. Pour dire que même en France, Barry Zachary, vous avez grandi dans l'ombre de ce héros national, l'émir Abdelkader, qui était à la fois un guerrier, un mystique, un homme d'État. Est-ce que cette figure comme ça tutélaire inspire la femme politique française que vous êtes encore ?
Ah oui, fortement.
En quoi ?
Fortement, parce que je trouve que c'est bien de trouver des héros positifs dans sa propre culture. Et j'en ai d'autres dans la culture d'accueil, Jean Jaurès par exemple. Mais je trouvais que c'était bien parce qu'il représente pour moi énormément de choses. L'émir Abdelkader, c'est l'harmonie des contraires. Et quand on parlait des minorités, parce qu'il a été en même temps guerrier, en même temps diplomate, en même temps ceci, en même temps cela, c'est en même temps quoi. Et d'où je tiens cet intérêt pour les minorités ? Je la tiens de l'émir Abdelkader qui a sauvé des milliers de chrétiens à Damas. Et quand on lui a posé la question de savoir pourquoi, il a répondu « c'est au nom de ma foi musulmane, parce qu'au-delà du droit musulman, il y a le droit de l'humanité ». Et il rajoutait plus loin, où que vous soyez, combattez les extrémistes et les obscurantistes. Et donc, je suis dans
aussi,
cette...
on ne demande pas à un homme son origine, la question n'est
oui,
pas
la question de l'origine, c'est magnifique. Ne demandez pas l'origine d'un homme, etc.
Demandez qui il est, ses qualités.
Demandez qui il est, ce qu'il fait. C'est une très belle phrase, j'aurais dû la reprendre, mais je n'ai pas pensé. Peut-être un peu fatiguée en ce moment, mais voilà, c'est une très belle phrase, très belle phrase de l'émir Abdelkader. Et donc, je suis dans cette filiation-là. C'est-à-dire une filiation où j'ai une spiritualité qui m'est propre et en même temps, je suis une citoyenne engagée. Et en politique, ce chemin des origines et les valeurs que j'ai reçues par rapport à les origines, c'est une colonne vertébrale en politique.
Donc la femme politique française a besoin autant d'un émir Abdelkader que d'un Jaurès.
Absolument.
Pour penser le monde d'aujourd'hui.
Pour penser le monde d'aujourd'hui, oui. Et je pense que l'émir Abdelkader nous serait encore très utile.
Alors il y a l'astre d'Orient qui va s'inviter en sol majeur. Vous voyez à qui je fais référence. On l'appelait comme ça. Et cet astre d'Orient a commencé par chanter des chants religieux d'ailleurs.
Oui.
D'où cette voix. Kaltoum, la voix du monde arabe sur RFI, mais alors évidemment, pour qui n'est pas arabophone, c'est mon cas, oui. Ça reste un peu un mystère insondable, mais pas pour vous, Barry Zakhari.
Non, pas pour moi, parce que voilà, j'ai été nourrie à ça, donc pas pour moi. Ce que je veux dire, c'est que je n'ai pas choisi par hasard ce chant, parce que...
Le titre de ce chant,
Hadith al-Rouh, c'est un poème de Mohamed Iqbal. Mohamed Iqbal, qui est ce père du Pakistan, qui est un grand soufi, qui a été un grand érudit, qui est enfin, vraiment quelqu'un d'exceptionnel aussi, comme l'émir Abdelkader. En même temps, un spirituel engagé. C'est cela que j'aime. J'aime pas les spirituels tout court, là. Et la chanson, c'est « Le dialogue de l'âme ne parle qu'aux âmes, et seul le cœur en perce le mystère. Mes yeux se noient d'amour pour lui. »
Avec un L majuscule.
Avec un L majuscule. « Ultime signe de la majesté de mon cri, l'aube dit alors, c'est la plainte d'un cœur qui cherche à monter vers le ciel. »
Ça vous aide à traverser,
oui,
le temps, les absolument interrogations, le monde, quotidien, politique.
Oui, ça aide.
C'est
beaucoup.
Vrai, ça vous aide.
Oui, oui, beaucoup.
Alors vous êtes aussi une amoureuse des mystiques, ou je me trompe, puisque le mystique poète persan Omar Khayyam, il fait partie de vos lectures, Bariza. Je me suis retrempée par amour, alors pour le coup, pour cet auteur perse. Il disait par exemple « Tu as brisé ma cruche de vin, ô Seigneur.
Ah, » oui.
Tu as claqué sur moi la porte de la joie, ô Seigneur. Sur le sol, tu as répandu mon vin grenat par maladresse.
C'est pas toi qui es fou.
Que ma bouche s'emplisse de terre, n'es-tu pas ivre, Seigneur. C'est magnifique.
C'est magnifique, oui.
Car au catalogue de ce poète persan, il y avait l'amour du vin, l'amour des éphèbes. On est très très loin de la tyrannie de ce temps où tout est haram et où tout est halal. Qu'est-ce qui justement en islam est licite et illicite? Parce qu'on est un peu perdu.
Alors, moi je n'y comprends plus rien.
Vous-même?
Moi-même.
Comment allons-nous faire?
Ce que je sais, c'est qu'on a injecté en islam un virus. Un virus qui fait que c'est halal, c'est haram. C'est licite, c'est illicite. Moyennant quoi, on a perdu la verticalité de la religion et la dimension spirituelle de la religion. On a asséché l'islam. Et à partir du moment où on a asséché l'islam, les théoriciens du salut peuvent arriver. C'est-à-dire, voilà, tu vas avoir un billet premium pour aller au paradis, et je te garantis que tu vas y aller, et il y a des gens suffisamment stupides pour le croire, suffisamment endoctrinés pour le croire. Et donc l'assèchement, quand on voit l'assèchement d'une religion, c'est ce qu'il peut y avoir de pire. Parce que n'importe qui peut raconter n'importe quoi.
Alors donc la clé pour lutter contre cet islam radical,
c'est l'islam,
lui-même.
Le vrai.
Comment renouer avec l'islam, le vrai, comme vous dites, quand les têtes ont été tournées?
Oui, c'est tout le problème. Il y a un travail. D'abord, il y a le travail, il y a un contre-discours à faire. Par exemple, moi j'ai entendu un jour l'imam de Brest dire à des enfants que la musique était interdite en islam et que s'ils écoutaient de la musique, ils allaient devenir des singes ou des, je sais plus quoi, ou des porcs. Enfin, on sait rien. Bon, ça, on n'a fait qu'un tour. Et donc, à l'Institut des cultures d'islam, nous avons fait une exposition d'art contemporain sur la musique. C'est-à-dire que la psalmodie, déjà, du Coran, est un chant. Deuxièmement, Ziryeb, est le premier à avoir inventé un conservatoire de musique ouvert au monde, qui est un Irakien, qui est passé par l'Andalousie. Troisièmement, le solfège a été inventé par les Arabes, par Al-Kindi, sur la notion de chiffres, c'était des chiffres pour reconnaître les notes. Il y a un corpus de musique spirituelle en islam énorme. Et puis il y a toute la musique arabo-judéo-andalouse qui a drainé tout le Maghreb jusqu'en Syrie. Donc la musique ne peut pas être interdite. C'est comme si on nous disait qu'on interdisait aux oiseaux de chanter. Donc c'est pas possible, donc il faut faire appel à l'intelligence des gens et leur dire non, c'est pas possible. C'est là où je vous dis qu'il y a une rupture dans la transmission des valeurs, une rupture dans la transmission de la culture.
Est-ce qu'on peut dire de vous aujourd'hui que vous avez donc deux amours, c'est-à-dire l'islam d'un côté et je dirais même pas la France, mais l'Europe.
L'Europe, oui. Ben, la France dans l'Europe. La France, bien sûr, dans l'Europe. La France est mon pays. La France dans l'Europe.
Et la France et l'Europe telle que Emmanuel Macron la désire.
Écoutez, il a une ambition exceptionnelle pour l'Europe. Exceptionnelle pour l'Europe. Je crois qu'il est la personnalité qui va pouvoir nous redire encore que l'Europe est notre ambition, que l'Europe est notre vocation. Nous ne pouvons pas tout petit faire les choses. Il faut être nombreux, il faut être ensemble pour faire les choses.
Je dirais que votre double culture, en fait, à vous, car elle est totale, elle est réelle, hein, c'est le produit en même temps de l'histoire, de ce couple infernal, la France et l'Algérie. Vous, vous vivez comme ça ?
Ah oui, oui, absolument.
Vous diriez que vous êtes une synthèse ?
Pardon,
une synthèse ?
Une synthèse, oui, oui. Oui, c'est beau, ça. Oui, c'est beau, ça, je l'accepte.
Est-ce que vous iriez même jusqu'à dire que vous êtes une Française algérienne ?
Ben, écoutez, je suis binationale, donc je ne suis pas dans le reniement de mes origines. Donc, je les assume. Je suis algérienne et française en même temps. Mais je vis en France et je suis citoyenne française. Ma citoyenneté s'affirme en France, dans les engagements que je prends et dans les fonctions que j'ai occupées. Donc, pleinement citoyenne française. Mais l'Algérie, il y a quelque chose, parce que mes parents ont donné des choses, ont fait de la prison. Et puis c'est toute une histoire. Je pense que la gauche même, la gauche européenne, la gauche française, a été sensible à cette histoire de décolonisation. Donc peut-être que même si j'étais née sur le sol français et française, j'aurais été sensible à la question de la décolonisation.
Et en même temps, avec ces enfants de la troisième génération, dont on parle toujours un peu entre les lignes comme ça, qui ne se revendiquent pas français, qui se définissent comme blédards, c'est fou, ce mot est fou, quoi. Je parle de certains de nos quartiers dans les banlieues. On a l'impression, avec cette génération, que la paix n'est pas définitivement signée entre nos deux pays.
Bah, écoutez, il y a probablement des lacunes de la République. Probablement. Et il y a des lacunes des familles. Je mets à égalité. Parce que faire un citoyen, l'école aurait dû y arriver. Mais l'école toute seule ne peut pas. Elle a besoin des parents. Comme je vous l'ai dit, moi, chez moi, c'était les parents et l'école.
Mais la France toute seule peut-être ne peut pas non plus. Est-ce que l'Algérie aussi a des choses à régler de son côté ? Est-ce que la France et l'Algérie n'ont pas à travailler main dans la main pour que cette paix soit réelle ?
Absolument, oui.
Et puis, vous verriez quoi ? Est-ce que vous œuvrez, puisque vous êtes un pont finalement entre ces deux pays ?
Quand je peux, je le fais. Je suis allée avec le président Macron en Algérie dernièrement. Et il a été superbement accueilli. Je pense qu'il y a des choses qui avancent. Ça va doucement, trop doucement. Et puis parfois, on utilise ces soi-disant ruptures ou ces soi-disant problèmes pour des questions de politique intérieure. Donc personne n'est dupe de ça. Mais un jour, tout ça finira parce que des générations... Un jeune a demandé au président Macron un visa. Il lui a dit...
Un jeune Algérien ?
Oui, il lui a dit « Mais c'est quoi ton projet de vie ? Dis-moi ton projet de vie. » Ah, je veux partir. Ben, il dit non, c'est pas un projet de vie. Désolé. Voilà, donc on va y arriver ensemble. Et moi, je compte beaucoup sur les historiens des deux rives pour pouvoir faire ce beau travail.
En sol majeur, @rfi.fr.
Au générique de cet en sol majeur consacré à Barry Zakhiari, un petit conseil. Une petite visite, juste avant la rupture du jeûne, à l'Institut des cultures d'islam, c'est à Paris, dans le 18e, pour ceux qui peuvent, bien sûr. Merci et saftorkoum, bon ramadan, Bariza.
Merci. Alors je peux dire à vos auditeurs, ramadan Moubarak Saïd.
On va refermer son sol majeur avec un certain Mike Massey. Je ne sais pas exactement qui c'est, je sais que...
C'est un Libanais.
Un Libanais qui chante sur une scène du Qatar.
Il chante sur une scène du Qatar et il chante un chant tellement ancien, arabo-andalou. Très très beau chant, mais il le chante en rhythm and blues.
Sol majeur avec Facebook, Twitter et puis en podcast sur notre application Pure Radio et bien sûr derrière votre poste chaque samedi, chaque dimanche à 14h10 temps universel, 16h à Paris. Caroline Filliott, Laura Pinto, Yasmine Chouaki, on vous retrouve la semaine prochaine avec le réalisateur Nabil Ayouch. À la semaine prochaine.
Super.